commence à le dire, la nécessaire transition écologique, si on veut, pour l'avenir de l'humanité, elle doit forcément s'accompagner d'une transition sociale.
Alors, je ne suis pas certain que la transition écologique pour tous les économistes soit réellement sociale. Je pense qu'avant tout, elle doit être économique. Mais bon, c'est peut-être un moyen de leur faire comprendre et en tout cas d'arriver à quelque chose de plus juste. Vous êtes dans Sur quel pied penser ? C'est le 9e numéro et aujourd'hui, le 2e numéro consacré à la SCOP étiquable. Deuxième épisode donc de cette visite d'usine de transformation du chocolat à Florence, dans le Gers, avec Rémi Roux, qui est cofondateur et actuel directeur de la structure. Alors si on s'intéresse dans Sur quel pied penser à cette structure, c'est parce que c'est une SCOP. Une SCOP, c'est tout simplement une société coopérative dans laquelle les salariés possèdent au minimum 51% du capital. Ils ont également un droit de vote sur le fonctionnement de l'entreprise. Chez Étiquable, c'est 100 salariés qui sont sociétaires sur les 163. Alors le décalage s'explique parce qu'il faut être au moins salarié pendant 2 ans pour pouvoir être sociétaire de la SCOP. Alors on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit sur la première émission, sur le fonctionnement, sur le commerce équitable et sur le fonctionnement de cette entreprise. Je vous invite forcément à aller écouter le premier numéro de Sur quel pied penser qui était dédié à cette SCOP, c'était le numéro 8. Donc nous repartons dans les couloirs de la chocolaterie équitable et bio qui se situe donc à Florence dans le Gers. Les visites sont gratuites si jamais vous êtes intéressé, que vous viviez dans le Gers ou que vous y passiez pour les vacances. La visite est gratuite en anglais et en français et elle dure à peu près 1 heure.
On va continuer la visite. Donc là, après le fondoir, on était sur le fondoir, ça, on a fondu les gros packs de pâte de cacao qui sont arrivés du Pérou. Et ensuite, ici, on va les broyer. On a du cacao qui arrive à peu près à 100-120 microns. Et il va falloir qu'à la sortie du broyeur, on ait une texture beaucoup plus fine. Il faudra qu'on arrive sur du chocolat à être autour de 10-15 microns. Et c'est ça qui va se passer dans les différentes machines. Donc tout ça, on explique. Quand, pour les visiteurs qui vont venir, on explique le mélange, le pétrin où on va mélanger les différents ingrédients, le sucre de canne, le lait en poudre, le cacao, le broyeur. Voilà, on passe donc de 500 microns au départ à 130 microns et on va finir en fait avec du chocolat à moins de 20 microns. Et c'est là où on a vraiment la finesse du chocolat. Voilà, c'est tout ce travail-là. Et donc on montre, alors là c'est l'après-midi, il n'y a pas de production en ce moment, enfin là il y a des petits tests, mais en fait on est en train de former la deuxième équipe qui va travailler l'après-midi sur le chocolat. Jusqu'à présent on n'avait qu'une seule équipe, et puis du coup on met des petits films qui permettent aux gens de voir de près toutes les étapes de fabrication qu'on passe par ici, parce qu'à travers ces vitres on voit bien les machines, mais on ne voit pas forcément exactement tout le processus.
Oui, les tuyaux... sont en inox, on ne voit pas du tout le chocolat passer à travers.
Ça, on ne le voit pas. Donc c'est pour ça qu'on a mis des fils. Là, vous avez, par exemple, la conche est en train d'être remplie. Donc la conche, c'est cette machine qui fabrique le chocolat, qui tourne et qui va tourner pendant plusieurs heures comme ça pour faire ce mélange, broyer le chocolat et puis le permettre d'obtenir le cacao. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, il y a une mezzanine en haut où on va voir un peu l'ensemble de l'usine. C'est ce qu'on a prévu quand on a construit cette chocolaterie. On s'est dit, il faut que ce soit une vitrine aussi pour les consommateurs, pour qu'ils puissent comprendre comment est fabriqué le chocolat. Là, par exemple, on explique pourquoi est-ce que le chocolat blanchit quand il y a des sauts de température et qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, quand il a blanchi, c'est qu'il y a une différence de température de 10 degrés à peu près. Et du coup, c'est le beurre de cacao qui est remonté en surface. Et il n'est pas mauvais, le chocolat. Il n'a plus la même granulométrie, il n'a plus le même aspect. Vous allez le trouver moins bon, sauf simplement vous le refondez. Si vous le mettez dans une casserole, vous le refondez, il va devenir exactement pareil qu'avant. Voilà. Donc ne jetez pas vos tablettes de chocolat quand elles sont blanchies, elles sont encore bonnes. Il faut juste les faire refondre, puis comme ça, vous leur donnerez la forme que vous voulez après.
Ça périme le chocolat ou pas ?
Oui, au bout de quelques années. Enfin, il y a 2 ans de date à peu près dans nos tablettes de chocolat. Donc au bout de... On estime qu'il faut les consommer avant 2 ans, parce que sinon, au bout d'un moment, ça prend un goût qui est moins bon. Mais en même temps, je veux dire, une tablette, si elle voyage beaucoup et qu'elle saute de température, elle va perdre son goût beaucoup plus rapidement que les 2 ans. Donc là, on arrive dans une mezzanine où ça vous permet de voir toute l'usine. Vous avez ici la grande salle où il y a les trois conches. Les conches, ce sont donc ces machines qui font chacune 3 tonnes et qui fabriquent le chocolat pendant à peu près 12 heures. Et donc, il va y avoir peut-être 3 recettes différentes, un chocolat au lait, 2 chocolats noirs. Chaque fois, bon, celui-là, par exemple, ça va être de l'Haïti, l'autre l'Équateur, on ne mélange pas justement. Hein, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on ne mélange pas.
Chaque destination, enfin chaque provenance a sa conche.
Oui, enfin après, on va la nettoyer et puis on mettra une autre demain. Mais oui, on ne mélange pas. Donc, l'idée, c'est de ne pas mélanger, effectivement. Et ensuite, quand le chocolat est fabriqué, ça passe sur la droite à travers ces tuyaux, dans ces trois gros tanks. On appelle ça des tanks. En fait, ce sont des citernes hein, qui font 6 tonnes et qui vont stocker le chocolat en le gardant à température. Ce sera autour de 40 degrés. Ça va être agité. Et par exemple, quand vendredi, on va fabriquer, le chocolat va passer le week-end. Il sera liquide. Il va passer le week-end dans ces tanks et il sera coulé simplement le lundi matin. Et on va voir par la fenêtre l'énorme machine qui permet de couler le chocolat. Alors là, vous ne le voyez pas très bien d'ici, mais c'est dans ces machines-là où on va couler le chocolat dans des moules. Il y a des petits films qui expliquent ça. Et du coup, donc là, c'est coulé toujours à température. Et ensuite, vous savez, c'est coulé dans le moule. En fait, il y a un dessin sur le moule où on voit une fève de cacao, un truc comme ça, ou une cabosse. Et en fait, ça sera le dessus de la tablette. C'est pour ça que le dessous de la tablette, il n'y a pas de dessin. Et voilà. Et donc, c'est ces tablettes de chocolat qui ont été coulées. Ensuite, elles passent dans cette immense machine où elle va passer plusieurs heures. C'est un tunnel de refroidissement. Et ça va le ramener à 12 degrés. Et à ce moment-là, le chocolat durcit. Et c'est à ce moment-là, on en arrive à ce moment-là, ici, dans cette salle, où il y a le conditionnement. C'est ce qu'on appelle l'atelier des marmottes. C'est là où ils emballent les tablettes de chocolat. Vous avez une énorme machine sur la gauche qui est un accumulateur de tablettes. Vous avez des centaines de tablettes dedans. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que, de temps en temps, la machine, ils vont changer les tuyaux. Et ici, les tablettes arrivent sur ce tapis roulant. Elles passent sous un détecteur de métaux. Donc, sont éjectées les tablettes qui ne font pas le poids, qui font moins de 100 grammes. Sont éjectées les tablettes où il y a un boulon dedans, par exemple.
Ça arrive, ça ?
A priori, non, parce qu'on a des machines toutes neuves, mais ça pourrait arriver. On pourrait imaginer qu'il y a un opérateur qui perd un doigt avec son alliance. Non, je blague. Donc, non, c'est, pour le moment, ça n'arrive pas. Mais enfin, on a quand même le détecteur de métaux qui permet de suivre un petit peu les problématiques qui pourraient arriver. Et ensuite, tout est emballé. Et comme des fois, la machine, il faut changer le film, il faut changer l'étui, et ben, l'accumulateur de tablettes permet de ne pas arrêter toute la production qui est en train de tourner. Donc, du coup, ça continue à produire sans discontinuer. Toutes les tablettes arrivent et se mettent dans cet accumulateur. Et après, au fur et à mesure que la machine à emballer fonctionne, eh ben, les tablettes partent dans la machine à emballer. Et on arrive aujourd'hui à une moyenne d'à peu près 60 000 tablettes par jour avec une équipe le matin. Et à partir du mois de novembre, on passe à une deuxième équipe l'après-midi. Donc, on sera sur 100-120 000 tablettes par jour. Etikable, c'est 12 millions de tablettes par an. On représente aujourd'hui 2% du marché français des tablettes de chocolat.
12 millions de tablettes, 2%, c'est énorme.
C'est 2%, avec 12 millions de tablettes, on fait 2% du marché. C'est l'équivalent de marques comme Crunch, Poulain. Ce sont des marques qui font à peu près 2-2,5% du marché du chocolat. Nous, en tout, Etikable, on vend un peu plus de 30 millions de produits par an. Et dans ces produits, il y a 12 millions de tablettes de chocolat. Quoi.
Alors, on parle beaucoup de chocolat parce qu'on est dans le vine de fabrication, de transformation, mais vous vendez énormément d'autres produits aussi.
Oui, alors c'est notre première famille de produits. C'est pour ça qu'on a fait cet investissement de 15 millions d'euros sur la chocolaterie, parce que c'était aujourd'hui 40% de nos ventes. Mais en fait, après, il y a le café aussi. Mais pour le café, en fait, on a aidé une boîte à se transmettre en scope. En 2007, à Bordeaux, à Pessac, c'est une scop qui s'appelle Café Michel et qui faisait du café bio et équitable dans les magasins spécialisés, chez Biocoop, etc., depuis déjà 30 ans. Quoi. Et donc, en fait, on les a aidés à se transformer en scop. Du coup, ce sont nos agronomes qui sourcent et qui achètent les cafés pour eux. Et puis, du coup, ce sont eux, Café Michel, qui fabriquent les cafés pour Etikable. Voilà. Et ensuite, les familles de produits sur lesquels nous sommes, il y a le sucre, il y a le thé, les épices. On a un petit atelier de conditionnement d'épices un peu plus loin dans la zone industrielle, etc. Et là, si vous voulez, quand vous visitez, donc même si les machines ne fonctionnent pas, vous avez des télés qui vous montrent exactement. Donc là, vous avez l'emballage des tablettes, où une par une, elles sont emballées. Et ensuite, vous avez le côté aussi coulage, où vous voyez les machines qui coulent le chocolat, ce qu'on voit très mal parce que la machine est fermée. Mais en fait, on voit, et ça coule dans des moules en plastique comme ça, les tablettes de chocolat une par une. Et ensuite, ça part dans cette immense machine qui fait toute la longueur avec tout le circuit de refroidissement. Donc, c'est une grosse industrie. On a eu pour 8 millions d'euros de machines. Ça nous a coûté un bras. Et même le parcours de visite qu'on est en train de faire, c'était 500 000 euros. Mais c'est un investissement qu'on a fait parce que c'est important d'expliquer aux gens les choses, ce qu'on fait, et puis c'est un peu notre vitrine. Et du coup, on a dit, ce sera gratuit la visite, c'est pas payant, c'est gratuit. Voilà, on espère que les gens, plutôt, au lieu de payer une entrée, peut-être qu'ils vont acheter une tablette dans la boutique avant de partir. Comme ça, ils comprendront encore mieux ce qu'on fait, parce qu'ils auront dégusté, et puis voilà.
Oui, c'est mieux que de vendre une entrée avec une tablette offerte, quoi.
C'est ça.
On est plus dans l'éthique. Et justement, en termes d'éthique, est-ce que le fait de vendre dans les grands supermarchés, parce que dans les grandes surfaces, vous êtes présent partout en France, est-ce que c'est compatible avec l'éthique d'Ethicable ?
Mis piernas, yo me hundo en el musgo, Voy nadando en la tierra. Voy juntando mis raíces. Se me juntan los brazos, las piernas, los hombros, los ojos, la nariz, la lengua, las... La lengua, las sienes, el cráneo y la nuca la siento. No me toques la rodilla, no me pises las plantas, no me toques el párpado. Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada.
Les grandes surfaces, vous êtes présent partout en France. Est-ce que c'est compatible avec l'éthique d'Ethicable ?
Alors, ben nous, on utilise...
Rémi Roux, cofondateur de la SCOP Ethicable et actuel directeur.
On utilise la grande distribution. Eux, ils vont nous utiliser pour leur image, pour montrer que ce sont des bons magasins, pour répondre à la demande des consommateurs. Et nous, on les utilise parce que ce n'est pas notre métier, nous, de tenir des magasins. On n'aurait jamais pu ouvrir 10 000 magasins en France. Peut-être si on avait décidé de vendre nous-mêmes les produits, on aurait fait une boutique, deux boutiques, trois boutiques, mais ce n'est pas comme ça qu'on aurait eu l'impact qu'on peut avoir, nous, aujourd'hui, au niveau mondial, avec des coopératives de producteurs. Donc on l'utilise. Ce qu'on ne voulait pas, c'était que la grande distribution fasse trop de bénéfices dessus si on était une petite marque. Et en fait, on a réussi à ce que la marge que prennent les magasins est tout à fait correcte. Il y a un petit peu de bénéfices, mais pas tellement. En fait, c'est la concurrence qui fait ça. Comme on est un peu partout dans toutes les enseignes et qui se font la guerre des prix entre eux, ça suffit à ce que les marges soient correctes. Et voilà, c'est un choix qu'on a fait. Ensuite, la grande distribution, c'est la moitié de la grande distribution, ce sont des indépendants, hein. Ce sont des gens qui, au départ, avaient des petits magasins, des petites épiceries de quartier, des supérettes, il y a 40 ans. Et simplement, ils ont bien travaillé, ils ont développé, ils ont agrandi. Puis un jour, ils sont devenus un supermarché. Et puis ils ont continué à grandir. Un jour, ils ont ouvert un supermarché. Ça, c'est... qu'est-ce qu'on fait ? Quand est-ce qu'on arrête de les protéger, qu'on leur jette des cailloux ? C'est quand ils ont 10 salariés, 15 salariés, c'est quoi le seuil ? Vous voyez ? C'est pas aussi... On n'est pas dans un monde où il y a les blancs et les noirs, quoi. Tout le monde est gris. Nous on essaye d'être gris clair, c'est tout, quoi. Et en fait... la grande distribution, c'est vrai que la moitié de la grande distribution, ce sont des indépendants. Hein, donc c'est Leclerc, Intermarché, les magasins U. Et puis après, il y a d'autres enseignes qui sont ou qui appartiennent à des fonds d'investissement ou familiales comme Auchan. Et donc voilà quoi, c'est pas, il y a des gens bien en grande distribution, il y a aussi des gens pas bien, mais des gens pas bien, il y en a partout. Voilà, c'est comme ça. Donc on a fait ce choix-là parce que de toute façon, c'était pas notre métier, nous, d'être épicier. Notre métier, c'est d'arriver à faire des bons produits et de développer des vrais projets de développement. Avec des petits producteurs dans les pays du Sud. On va arriver dans la dernière salle où on explique plus les problématiques de commerce équitable et du cacao et du chocolat. On va voir. Dans cette salle, on explique le problème de la commercialisation de la production du cacao au niveau mondial. Et là, par exemple, on a Marc Dufumier, qui était le président de Commerce Équitable France, qui est un agronome spécialisé vraiment dans la transition écologique et qui explique les problématiques du cacao et en disant que si on veut de l'avenir pour le cacao, il faut garder l'agroforesterie, les grands arbres. Il ne faut pas couper ces arbres pour planter à la place, quoi.
L'idée de l'abatis brûlis, de la défriche et de planter sur un écosystème déforesté, c'est qu'on va cultiver les cacaoyers en plus grand nombre que dans la forêt primaire. Et du coup, on va donner accès au soleil à un plus grand nombre de cacaoyers. Donc un agriculteur en agriculture de front pionnier espère mettre à profit cette fertilité naturelle qui résulte de la forêt naturelle, de la forêt primaire. C'est vrai que dans un premier temps, ça peut donner de très hauts rendements. Le problème, c'est qu'effectivement, la fertilité qui peut être, on va dire, dans les premières années, on peut aller jusqu'à 2000 kg de fèves à l'hectare, et bien on descend des niveaux de 500 kg comme aujourd'hui, une trentaine d'années après. Ah ben du coup, quand le rendement est dérisoire, les agriculteurs trouvent que ça ne devient plus rentable, d'autant plus que comme l'écosystème a été un peu endommagé, pour lutter contre les myrides, un insecte prédateur, on commence à mettre des insecticides. Pour lutter contre les mauvaises herbes, en tout cas les herbes adventices, on met un herbicide. Pour lutter contre la cochenille aussi, un insecticide. Et du coup, les coûts en intrants monétaires, coûteux en termes monétaires, s'accroissent, la valeur ajoutée diminue, et du coup, un grand nombre d'agriculteurs considèrent que ce n'est plus rentable et qu'il vaut mieux partir ailleurs. Et la cacaoculture continue d'être une culture de front pionnier en Côte d'Ivoire. On est passé de 80% de forêt en Côte d'Ivoire à quelque chose qui est de l'ordre aujourd'hui de moins de 20%.
Là, on est dans des questions de permaculture, presque, quoi.
Alors, c'est un petit peu ça. Effectivement, c'est parce qu'on va voir les grands arbres de la forêt amazonienne qu'on ne va pas couper. Et en dessous, on va voir le cacaoyer, le manguier, le caféier, etc. Et puis, le producteur, il va utiliser les fruitiers qu'il va consommer, qu'il va vendre au marché. Et puis, il va récolter le cacao et le café qu'il va amener à la coopérative. Et ça va lui faire l'argent pour vivre, pour payer l'école à ses enfants, les fringues, l'électricité, etc. Et donc, c'est ça. Et on a préservé les grands arbres. Du coup, on n'a pas besoin d'arroser, de traiter chimiquement par avion quand il y a une maladie, etc., quoi. Et c'est l'agriculture de toujours. Et quand on sait qu'aujourd'hui, l'agriculture et l'élevage intensif représentent 30% du dérèglement climatique, un tiers du dérèglement climatique, c'est cette putain d'agriculture chimique qui est arrivée après la guerre, où on a dit, de toute façon, on ne pourra pas nourrir la planète en bio, donc on va faire comme ça, il faut faire du chimique. Ben, ce n'est pas vrai. On sait aujourd'hui qu'on peut produire autant ou mieux, même, en bio et en commerce équitable. Nous, c'était le cas au Honduras l'année dernière. La production de café des coopératives avec qui on travaille, en bio et en équitable, était 15% au-dessus du niveau moyen de production du Honduras, avec des engrais chimiques, etc. Donc, à quoi ça sert de continuer à pourrir la planète ? le tour de la visite assez rapidement. On explique plein de choses, quoi. Voilà. On dit au Nicaragua le revenu annuel d'un producteur de la coopérative Cacao Nica est de 1095 dollars par hectare de cacao. C'est trois fois plus qu'un producteur non bio qui n'est pas en commerce équitable. Et avec ça, bah, il arrive à vivre. Alors que sinon, ce sont des producteurs, ils ont 2-3 hectares. Quoi. Donc vous voyez, ils vont vivre avec 2000, 3000 dollars par an. Voilà. Donc on est vraiment sur du petit producteur.
Toute la démarche est aussi d'expliquer aux consommateurs en Europe ou en France l'impact qu'il a sur les producteurs à l'autre bout du monde. Quoi. Une tablette de chocolat, ça ne vaut pas 50 centimes.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est clair que c'est pour ça qu'on n'est pas chez les hard discounters. On va pas, parce que comme le principe, c'est d'écraser au maximum le coût de fabrication, le commerce équitable, c'est une démarche différente. C'est-à-dire, il faut remettre l'alimentation au centre des valeurs, l'être humain qui fabrique et qui cuisine au centre des valeurs aussi. Et là, on rentre dans la boutique. Oui, il y a des gens.
Ouais, c'est presque l'exposition, là, tout ce chocolat.
Voilà, il y a tous nos chocolats. Donc, c'est là où vous voyez les différentes origines qu'on a, avec le Guatemala, le Bolivie, le Nicaragua, la Côte d'Ivoire. Et ça permet vraiment aux producteurs de découvrir les vrais goûts des chocolats, quoi. Et là, on a des gens qui ont visité, donc ils sont en train de faire leurs courses, du coup. Et voilà, bon, donc ça marche, ça fonctionne le système. De dire, on n'essaye pas de faire du pognon au début en faisant payer l'entrée, mais je pense qu'on va en gagner beaucoup plus en vendant des produits parce que les gens seront en confiance.
Alors on est en quoi ? On est en, du coup, magasin de sortie d'usine ou ça n'a rien à voir ?
Ça, oui, c'est un magasin d'usine, si vous voulez, puisqu'il est collé à l'usine. Mais en même temps, on peut présenter aussi les autres produits qu'on fait. Par exemple, Eticab s'est lancé dans une démarche d'huile essentielle parce que les producteurs avec qui on travaille dans plusieurs pays, en plus du cacao qu'ils vont récolter, ils ont aussi des jardins créoles au Madagascar où ils font pousser des épices. Donc déjà avec eux, on fait des poivres, on fait de la cannelle, des trucs comme ça. Et puis en plus, ils ont aussi du niaouli, du ravintzara. Et du coup, on a monté des projets pour que la coopérative achète des distillateurs et ils récoltent les fleurs, les plantes directement sur leur parcelle. Et c'est distillé par la coopérative et du coup, on a la première gamme française d'huile essentielle, bio, tracée, commerce équitable. C'est-à-dire que vous savez de quelle coopérative vient cette huile essentielle. Vous allez sur Internet, vous allez acheter toutes les autres huiles essentielles, vous ne savez pas d'où ça vient. Il n'y a pas cette traçabilité parce que tout le marché, encore une fois, est pris par des grossistes qui récupèrent les productions des producteurs, qui font eux-mêmes la distillation. Et il n'y a pas cette traçabilité. Et du coup, on a un super niveau d'efficacité au niveau principe actif. Et là encore, voilà, c'est un retour à des vraies choses. Comme le pinard. Vous n'allez pas acheter un vin où il n'y a pas marqué d'où il vient et s'il n'y a pas la photo du producteur et le nom du château. Et ben c'est pareil. Les huiles essentielles, il faut qu'on sache de quel groupement de producteurs ça vient. Quoi. Voilà.
Le vin, on fait des assemblages aussi en chocolat ou pas ?
En vin, vous faites des assemblages, mais pas interrégionaux.
Ni anu taleye Abega da lunyana kufara fina bena bandogola Anu manyayele Abega da lunyana kufara fina bena bandogola Anu manyayele Anu mauli kanlo Ala ye fembe dama Femme nous donne l'eau Ala ye dama Anu siginino Kuala kabo Ala kabo Abega da lunyana ko fara fina bena bandola Ko sa va aller Avec sa va aller Ala ye fembe dama Kadu kolo feu dama Kasanfe feu dama Kwanye doke doye Imaye Fara fina beko Farafina kakaka kenye fe Me farafina beko Mogo ubambolo Demisenu ubambolo Anga jamana kabo Farafina kabo Ala ye fembe dama
Kadu kolo fe u dama Kasanfe fe u dama Demsenu bambolo Kamelo bambolo Dukolo bambolo Sanyi bena telebe ba Abega dalunyana ko farafina bena bonora ku savale avec savale Abega dalunyana ko farafina bena bonora ku savale Avec sa vallée à la Réveillana à la Réveillana Massa à la Réveillana à la Réveillana Massa à la Réveillana
On fait des assemblages aussi en chocolat ou pas ?
En vin, vous faites des assemblages, mais pas interrégionaux, on est d'accord, voilà, c'est ça.
Rémi Roux, cofondateur de la SCOP Éthicable et actuel directeur.
Donc on a un ou deux chocolats où on fait des assemblages. Par exemple, quand on fait les chocolats au quinoa ou avec des ingrédients à l'orange. Donc là, ça va nous permettre de faire un assemblage où on va faire, par exemple, Pérou, Haïti. Parce que suivant les années, on a des productions qui peuvent être plus ou moins fortes au Pérou ou en Haïti. Ce sont des produits où, du coup, on peut équilibrer un petit peu. Et ce sont des fèves de cacao qui ont le même goût. Donc là, ça ne se voit pas pour la différence. Donc effectivement, on fait aussi des assemblages, mais c'est dans le bon sens. C'est pour permettre aux producteurs d'écouler leur production les années où il y en a trop aussi.
Bon, c'est lequel ton préféré ?
Alors, moi, je suis plutôt chocolat au lait, en fait. Et ça, c'est... Normalement, je ne devrais pas dire ça, parce que le vrai chocolat, c'est le chocolat noir. Et non, si, un super chocolat. C'est une recette italienne. Ça s'appelle le gianduja. Enfin, alors, en italien, c'est gianduja. En français, vous allez dire gianduja. Et en fait, c'est une recette italienne qui date des guerres napoléoniennes, où à l'époque, il y avait le blocus qui était fait sur les Britanniques par Napoléon. Et comme c'est eux qui faisaient toute l'importation du cacao en Europe, les Italiens, qui étaient des très gourmands et très, très friands de chocolat, faisaient des pâtisseries à base de cacao, de chocolat. Et ils se sont retrouvés bloqués. Donc, il n'y avait plus de cacao. Donc, en fait, ils ont trouvé une idée. Il y en a un qui a trouvé une idée en disant, on va mettre moins de cacao. Comme ça, on va continuer à pouvoir en faire, mais on va mélanger avec de la poudre de noisette. Et en fait, ce chocolat, le gianduja, il est fait à partir de 20% de poudre de noisette, fait mélanger avec le cacao. Et du coup, ça permet d'avoir ce bon goût là de pâte à tartiner que vous connaissez bien. Et en même temps, enfin voilà, c'est un nouveau produit. Alors là, on est les premiers à les sortir en grande distribution. On fait le pari, dans 5 ans, vous verrez qu'il y a plein d'autres marques qui le feront. Comme on avait été les premiers à faire des chocolats au lait à haut pourcentage de cacao, comme vous voyez là, on a du lait, 53% de cacao d'Équateur, 56% de cacao du Pérou, etc. Et donc, au lieu de rester sur ces 30% de cacao et tout le reste du sucre et du lait, et bien là, on avait développé ça. Bon, ben là, il y a une autre grande marque qui a sorti toute une gamme de chocolat il y a 2 ans, de chocolat au lait. Ils ont juste oublié le plus important, c'est de le faire en bio et en équitable. Mais sinon, ils avaient tout bon. Voilà, donc on fait le pari, on verra bien. Donc on est très très fiers d'être une petite PME qui sommes novateurs sur notre segment.
L'avenir d'Éthicable, du coup, c'est quoi ? De nouveaux produits, agrandir l'usine ? Enfin bon, l'usine, elle est toute neuve. Hein.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sans doute agrandir avec... on va faire un atelier de torréfaction de fèves de cacao, parce qu'en fait... cet atelier qui a été fait au Pérou, ça permet de traiter le cacao péruvien, équatorien. Mais il y a des pays comme Haïti ou Madagascar, ce sont des pays très pauvres, ils n'auront pas les moyens d'investir dans une usine à 5 millions de dollars. Donc pour ces pays-là, on va faire la torréfaction de la fève et la fabrication de la masse de cacao ici à Florence. Donc ça, c'est le prochain atelier qui arrive. Là, qu'est-ce qu'on fait? On vient de sortir une gamme de vrac. Pour répondre à votre question de tout à l'heure sur la transition écologique, les emballages, c'est un gros problème. Eh ben, on vient de sortir une gamme de vrac qui permet aux magasins de proposer nos produits en vrac sans emballage. Voilà. Et puis, il y a la cosmétique qui se développe aussi, qui est un nouveau projet avec là déjà des huiles essentielles. Mais puis maintenant, de l'huile de coco, on en avait pour la cuisine, mais on en fait maintenant pour des supports aussi de l'huile de coco, de l'huile de cacao, du beurre de karité, etc. Des huiles vierges, des huiles végétales. On a de l'huile de chanvre, par exemple, de Bretagne. On a, et puis en même temps, on va mélanger la noix du Brésil, par exemple, avec des produits beaucoup plus français, avec de la lavande de France, ce qui est assez rare aujourd'hui. C'est pareil, si vous avez des produits cosmétiques en lavande, vous verrez ce qui a marqué lavande de France. À part sur nos produits, vous ne le verrez pas marqué. Voilà, c'est des productions sur lesquelles on a perdu, nous en France, ce savoir-faire. Et c'est ainsi qu'avec la marque Paysan d'ici, qui est la marque aussi de commercialité française, on a développé des herbes de Provence qui, bizarrement, sont cultivées en Provence. C'est pas beau, ça? Mais oui, parce que c'est pareil.
Mais c'est pas une appellation.
Eh bien non, c'est pas une appellation d'origine. Non, non, c'est les herbes de Provence. Vous verrez qu'il y en a très peu qui sont fabriquées en Provence, à part les nôtres. Donc voilà, c'est tout. C'est juste ramener une logique un petit peu plus... de production locale et puis équitable à tout niveau.
Les questions là, qui se posent aujourd'hui, c'est de recommencer à délocaliser avec l'augmentation des prix de l'énergie et tout ça. Vous qui venez de monter une usine, on reste sur cette logique-là?
Eh ben nous, on vient de relocaliser à Florence notre fabrication de chocolat et on est très contents. Alors déjà, dans une scope, vous allez voir, vous allez voter la délocalisation. Vous allez dire, bon, on va se délocaliser dans les pays de l'Est parce qu'effectivement, ça va coûter moins cher. Et puis, on fait voter les gens. Donc, comme on est une scope, une personne, une voix, les gens, ils sont tous de Florence, d'Auch, du coin. Eh bien, ils vont tous voter contre et on va passer. Ils vont nous dire, ben, vous avez trouvé une autre idée, mais celle-là, on veut garder notre boulot. Donc, voilà. Donc, dans une scope, par exemple, la délocalisation, c'est pas une décision qu'on va prendre. Ça, ce sont des décisions financières de gens qui travaillent pas dans les boîtes et qui pensent qu'au pognon et qui font beaucoup de mal au tissu local, au territoire. Donc, non. Nous, vous voyez, à l'inverse, on avait une usine qui fabriquait nos chocolats. On n'était pas assez puissants pour les fabriquer nous-mêmes. Et là, on est arrivé à un niveau suffisant, on a relocalisé à Florence. Et donc là, c'est pareil, on a racheté les anciens locaux de Mességué, l'ancien siège social de Mességué. On a fait un grand atelier de 1000 m². Et dedans, on conditionne justement notre gamme de vrac, nos épices, etc. Voilà, donc la logique, c'est de ramener la valeur ajoutée à ceux qui méritent, c'est-à-dire aux petits producteurs dans les pays du Sud, chaque fois qu'on peut, ou dans la scope.
Eh ben, Rémi, merci beaucoup pour cette longue visite hyper intéressante.
On a fait le tour des différents sujets, voilà, sur le côté équitable, environnemental, agriculture paysanne, sociale, et tout ça, ça se touche, parce que je crois que là, tous les économistes commencent à le dire, la nécessaire transition écologique, si on veut, pour l'avenir de l'humanité, elle doit forcément s'accompagner d'une transition sociale. Et ça, bon, c'est juste... C'est les financiers qui n'ont pas encore compris, il faut que vous leur expliquiez, vous faites leur écouter votre émission.
Voilà, c'est parfait, on a coché toutes les cases de Sur quel pied penser.
Merci beaucoup.
Merci à Rémi Root de nous avoir accompagnés. Il est cofondateur de cette scope Éthicable et actuel directeur. La chocolaterie se situe à Florence dans le Gers. La visite est gratuite. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à aller vous balader dans les couloirs pour aller découvrir comment se fabriquent les tablettes de chocolat. C'est en même temps hyper intéressant sur toute la démarche d'économie sociale et solidaire et cette démarche de commerce éthique et équitable. Vous n'apprendrez pas grand chose par contre durant la visite sur le système de fonctionnement de la scope. Ça, c'est normal. Enfin, c'est pas le but de la visite, mais en tout cas, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller écouter le premier épisode, car c'était une émission en deux parties. Et puis surtout, si vous êtes salarié et que dans votre entreprise commence à se poser la question, bah, renseignez-vous sur les scopes. Et si vous êtes patron, bah, plutôt que de laisser, comme certains patrons, tout en gestion à des associations ou alors de revendre votre entreprise et qu'elle soit délocalisée, bah, pensez à la scope. C'est une alternatives hyper intéressantes et super positives au final pour tous les salariés. On se demande même pourquoi tout le fonctionnement économique des sociétés n'est pas comme ça et que les sociétés n'appartiennent pas à leurs salariés. Alors la valeur travail, elle vient bien des salariés quand même. Bon, on pourrait en débattre et c'est d'ailleurs le sujet de ces émissions, de réfléchir, de débattre et de donner des pistes de réflexion et non pas des réponses. Ce sur quel pied penser est désormais terminé. La musique aujourd'hui, je vous en parlais déjà la semaine dernière, il y a des titres comme ça qui vous font voyager. Moi, ce Nicolas Cruz et Colibria, c'est un des titres qui me renvoie loin dans des forêts et dans plein de choses. C'est un titre que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, comme on dit, il y avait trois morceaux, comme la deuxième partie de l'interview était un peu plus courte. Le deuxième morceau, c'était Los Wembres de Liquios avec Bola Bola en el Tres, cumbia péruvienne. Et puis, vous l'avez sûrement reconnu aussi, le dernier morceau, c'était Tikanja Fakoli, Ça va aller. Cette émission est donc désormais terminée. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse, enfin, celles qui le veulent bien.